Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être toujours fidèle au rendez-vous de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale toulousaine et régionale. Si vous vous intéressez à la musique classique et à l'opéra, que vous voulez savoir ce que propose Toulouse et sa région dans ce domaine, cette émission est faite pour vous. Comme d'habitude, nous allons revenir au cours de ce numéro sur les concerts de la semaine dernière et nous projeter sur l'actualité musicale de la semaine prochaine. À mes côtés, dans ce studio, la bande des mélomaniacs toujours fidèles au poste. Elle est venue en force aujourd'hui. Je salue d'abord Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. Également présent, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31 et Les Voix du Midi, et son compère Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31, les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. De retour à Mélomanie, Hubert Stocklin, contributeur du site classicnews.com et chroniqueur également pour Culture 31. Et puis, nous avons le plaisir d'avoir encore un invité d'honneur, Joël Subiette, fondateur et directeur du chœur Les Éléments, avant la semaine de célébration qui vont marquer du 8 au 13 novembre le 20e anniversaire de la création de l'ensemble vocal toulousain. Bienvenue à tous les cinq. Nous allons tout de suite aborder ensemble la première partie de cette émission en revenant sur l'actualité musicale de la semaine passée.
Mélomanie. Retour arrière.
Je les avais évoqués rapidement en fin d'émission la semaine dernière. Le Toulouse Wind Orchestra a donné deux concerts vendredi et samedi à Saint-Pierre-des-Cuisines sous la direction de Dylan Corley avec un programme dont nous allons parler dans quelques instants. Tout le monde ne le sait certainement pas, le Toulouse Wind Orchestra, également appelé le TWO, c'est l'ensemble d'instruments à vent de Toulouse. Serge Chauzy, vous avez assisté à leur concert et vous suivez cette formation depuis plusieurs années. Qui sont les musiciens qui la composent et quel genre de programme propose-t-il ?
Alors d'abord, il s'agit d'un orchestre symphonique d'instruments à vent, mais pas seulement, puisqu'il y a quand même deux pupitres de cordes, un pupitre de violoncelle et un pupitre de contrebasse. Mais l'ensemble est évidemment un ensemble d'instruments à vent. Alors c'est un orchestre qui a été fondé à l'origine pour réunir les talents toulousains. Et il y en a de nombreux. Il y a à la fois des musiciens professionnels issus de grands orchestres symphoniques. Le premier, l'Orchestre National du Capitole, évidemment, mais également l'Orchestre de Lyon, de l'Orchestre de la Suisse Romande, enfin, de grands orchestres. Et ces professionnels constituent un maillage qui encadre des musiciens moins professionnels, avec notamment des élèves des conservatoires, à la fois de Lyon, de Toulouse, et pas vraiment des amateurs, mais des musiciens en formation. Finalement, c'est un orchestre d'à peu près 80 musiciens, donc c'est un très grand orchestre. Inutile de dire que le plateau de l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines était vraiment très noir,
bien rempli,
et la salle était pleine. J'y étais pour le premier soir, donc le 27. Ça a eu un énorme succès, et un succès tout à fait mérité. Alors d'une part, c'était un concert-spectacle en même temps. Il y avait d'une part le chef d'orchestre Dylan Corley, qui l'a déjà dirigé. Il s'agissait du 5e concert donné à Toulouse par cet ensemble. Et il y avait un soliste dont je vais vous parler aussi, qui s'appelle Félix Dervaux, qui est un corniste, grand corniste d'ailleurs. Et donc le concert en question était à la fois illustré par la présence de magiciens, qui se disaient magiciens mentalistes. Alors outre des quelques tours de cartes entre les œuvres, il est intervenu de manière conséquente dans la première œuvre, qui était L'apprenti sorcier de Paul Dukas. Alors tout le monde connaît L'apprenti sorcier, on se souvient tous du dessin animé de Walt Disney, de Fantasia, avec Mickey qui joue l'apprenti sorcier. Et là, eh bien, il y avait ce magicien qui intervenait, mais qui intervenait vraiment avec son balai, qui arrêtait l'orchestre. L'orchestre s'arrêtait, revenait en arrière, accélérait, ralentissait. Enfin, ça a été un spectacle très réjouissant. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est la qualité de cet ensemble, de cet orchestre. C'est vraiment excellent, d'une précision absolue. La direction de Dylan Corley est très souple. C'est vraiment très, très bien. Et d'ailleurs, si bien que l'ensemble a été récompensé le 29 juillet dernier par la 3e place au World Music Contest d'une ville du Pays-Bas qui s'appelle Kerkrade, que je n'ai pas l'honneur de connaître, mais c'est un festival pour tous les ensembles à vent et qui n'a lieu que tous les 4 ans et qui réunissait 90 candidats. Eh bien, le Toulouse Wind Orchestra a remporté la 3e place et une place tout à fait méritée, je peux vous le dire. Donc, cet apprenti sorcier a été vraiment un délice. Et ensuite, il y a eu un concerto pour cordes d'un compositeur pas très connu, un compositeur russe, enfin de famille allemande, mais né en Russie, qui s'appelle Reinhold Glier, et qui est mort en 1956, donc c'est un compositeur relativement récent. Et son concerto pour cordes, trois mouvements, était joué en soliste par Félix Dervaux, un corniste extraordinaire, mais ça n'est pas vraiment étonnant, puisque à l'âge de 23 ans, il en a une petite trentaine actuellement, à l'âge de 23 ans, il a été engagé comme cor solo de l'orchestre du Royal Concertgebouw d'Amsterdam, ce qui tout de même est une référence.
Une idée de la valeur de ce musicien.
Il a quitté l'orchestre pour mener une carrière de soliste. C'est vraiment surprenant, d'autant plus qu'il jouait ce soir-là un cor viennois, qui est un cor particulier, ce n'est pas le cor traditionnel. Alors, ce cor viennois, il a réputation, on le qualifie quelquefois de boîte à pain. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Donc, c'est un peu...
Ça va pas être facile à jouer.
Un instrument assez délicat. Et là, ça a été complètement impeccable, très raffiné, beaucoup de nuances, une sonorité fabuleuse. Enfin, vraiment, vraiment un grand plaisir. Avec un moment qui m'a ahuri, la fin du mouvement lent, il y a un pianissimo décrescendo et en sourdine, je ne savais pas qu'un cor était capable de jouer comme ça, donc c'était vraiment formidable. Et puis le concert s'est achevé avec une œuvre que je ne connaissais pas non plus, qui est signée d'un compositeur espagnol qui s'appelle Ferrer Ferran, et c'est la suite symphonique Pinocchio, sur le conte évidemment, avec plusieurs mouvements très lyriques, très colorés, très rythmés, avec des mouvements terrifiants, notamment un mouvement avec le terrible requin de Pinocchio, et vraiment une musique d'image en quelque sorte. Vraiment, on avait l'impression de voir défiler un dessin animé. Donc vraiment un concert très réjouissant. Et dans le vide qui était le vide classique de la semaine dernière, ça faisait plaisir d'avoir un concert de cette qualité.
Et aussi original, parce qu'évidemment, ce genre de formation et ce répertoire, on l'entend très rarement, Toulouse ou ailleurs. Est-ce que parmi l'aimable assistance, il y en a qui s'intéressent vraiment à ce genre de formation, ces grandes formations d'instruments avant? Et alors là, c'est particulier, parce que ces instruments avant, ce n'est pas seulement des cuivres. On connaît des grandes formations de cuivres.
Oui, Big Band, par exemple.
Mais là, c'est encore autre chose. Oui. Et le répertoire qui lui est, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un répertoire spécifique pour ces formations, je ne crois pas.
Alors, il y a, par exemple, la suite de Pinocchio est écrite spécifiquement pour orchestre d'instruments à vent. Par contre, l'apprenti sorcier, non, évidemment. C'était une transcription. Le concerto pour cordes de Glier également, c'était une transcription. Il y a énormément de transcriptions qui peuvent être jouées donc, par ce type de formation.
Alors, je crois qu'Hubert, vous vous intéressez à cette musique.
Moi, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir un orchestre d'une telle ampleur, parce que... Mon idée, c'était que c'était sympathique, certainement, quand j'ai mis le disque, parce qu'ils ont sorti deux disques, et c'est un peu par hasard que j'ai pu écouter ces deux disques. Et j'ai été complètement bluffé par l'ampleur du son, justement les nuances et la qualité. Alors certes, c'est des transcriptions, mais toutes les voix sont là. Et quand il y a par exemple une suite de Bernstein, de West Side Story, c'est étonnant. C'est sûr que la musique qu'on connaît, on a des représentations mentales qui viennent, mais on entend tout, et dans des nuances extrêmement intéressantes. Mais c'est surtout la puissance. Moi, j'étais vraiment... étonné, c'est vraiment symphonique, c'est pas comme on entend un orchestre d'harmonie ou quelque chose qui n'a pas cette puissance-là. J'étais pas là pour les entendre, je regrette, mais l'an prochain j'espère être là, parce que je pense qu'ils reviendront. Mais en tout cas, déjà au disque, ça a été une rencontre fantastique, vraiment fantastique.
Oui, donc ils ont enregistré deux disques. Le premier est un disque avec des œuvres de Barnes, de Gershwin, notamment la Rhapsody in Blue, dans une version pour, évidemment, pour instrument avant. Et puis un deuxième disque avec des œuvres d'Appermond, de Grondahl et de Bernstein.
Appermond, c'est la symphonie...
La symphonie Golden Age.
Alors ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est une musique extraordinaire. Ça.
Alors j'ai un extrait à vous proposer pour illustrer tout ce que vous dites. Il faut qu'on les entende, ce TWO, le Toulouse Wind Orchestra. C'est un extrait du CD Blue Apple. Vous l'avez cité, Serge Chosy. Notamment, dedans, il y a la Symphonic Overture de James Barnes, un compositeur américain contemporain, tout ce qu'il y a plus vivant. On va écouter tout de suite un extrait de cette œuvre. Thank you. le début de la Symphonic Overture de James Barnes, interprétée par le Toulouse Wind Orchestra, une version que l'on peut trouver sur leur CD Blue Apple, enregistrée par l'ensemble symphonique d'instruments avant de Toulouse. Vous avez vu, ça sonne très grand spectacle à l'américaine, mais c'est magnifique. Eh bien, puisque nous parlons d'ensemble symphonique toulousain, nous allons maintenant prendre des nouvelles du plus célèbre d'entre eux, l'Orchestre National du Capitole, qui vient tout juste de rentrer de sa tournée sud-américaine. C'était, je le rappelle, entre le 23 et le 31 octobre. 6 concerts ont été donnés successivement en Argentine, en Uruguay et au Brésil, à Buenos Aires, Montevideo, São Paulo et Rio de Janeiro. Un autre musicien toulousain, le pianiste Bertrand Chamaillou, était également de la partie. Anne-Marie Chouchon, je crois que vous avez pu recueillir quelques nouvelles, quelques échos de cette tournée, sans parler d'en tirer un bilan, parce que c'est peut-être un peu prématuré. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous avez entendu dire?
Apparemment, c'est peut-être très banal, mais c'est vrai que ça a été un succès. Les salles semblaient tout à fait pleines. D'abord, il y a de très très belles salles en Amérique du Sud, notamment à Buenos Aires, même à Sao Paulo, à Rio. On ne le sait pas toujours assez. Et que finalement, sur le plan du public, ça a été une réussite. En même temps, apparemment, les musiciens sont ravis. Ils ont posté sur Facebook, puisqu'ils ont une page Facebook, ainsi d'ailleurs qu'un site officiel de l'Orchestre du Capitole, dans lequel ils ont posté des vidéos, des photos dans lesquelles ils sont ravis, apparemment. Donc, si eux sont contents, c'est que ça se passe plutôt bien. Et qu'il y a eu pas mal de déplacements entre les villes. Mais là, les derniers concerts étaient entre Sao Paulo et Rio. Et ils sont repartis, c'est-à-dire ce jeudi, de Sao Paulo. Et donc, apparemment, tout s'est passé au mieux, malgré les déplacements, malgré tous les côtés pratiques. Enfin, ils sont organisés, ils sont rompus à ce genre de voyage. Le public, on a interrogé des gens, j'ai vu sur certains témoignages, des gens du public qui ont dit merci Toulouse. Les ambassadeurs de France étaient là à Buenos Aires et à Sao Paulo, je crois, ou à Rio.
Montevideo aussi, je crois.
Oui, je crois aussi. Donc, il y a aussi un côté relations publiques dans ces voyages. Et aussi, bon, ils sont les images de l'excellence toulousaine et la vitrine. Donc, à chaque fois, il y a ce côté de faire connaître, enfin, de faire connaître, du moins de présenter le meilleur de tous les pays en tournée. C'est ça, je crois, le but des concerts. Il y a un côté ambassadeur de la vie culturelle d'une ville et ça s'est passé au mieux. Et on peut trouver sur des vidéos, sur notamment Facebook et sur YouTube, les musiciens eux-mêmes ont terminé leur tournée en faisant un quintet, une vidéo dans laquelle ils ont fait une adaptation de Au Toulouse, Claude Nougaro. Donc, ça clôture la tournée. Et c'est Au Toulouse, le Capitole, et Au Toulouse, Nougaro.
Alors ça, ces vidéos, parce qu'il y en a plusieurs, on peut les voir sur la page Facebook de l'Orchestre National du Capitole et sur YouTube aussi.
Et sur YouTube également. Voilà, la dernière. Mais il y en a d'autres où ils ont posté des coulisses de répétition, des coulisses diverses, ainsi que quelques brefs extraits de concerts avec Bertrand Chamaillou, ils vont rentrer à Toulouse, là on ne les voit pas avant la fin de semaine prochaine pour des concerts éducatifs.
Il y a les concerts éducatifs de Christophe Mangou, effectivement, mais la reprise des concerts à la Lograin, c'est le 18 novembre, donc ce n'est pas tout de suite.
Oui, je pense que là ils vont se reposer aussi, ils méritent bien
certainement.
Le repos, parce que c'est vrai que ces tournées, c'est quand même à un rythme qui est quand même assez soutenu.
Il y a des décalages horaires, et puis bon, il y a beaucoup de déplacements en avion, parce que le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, comme ça sur la carte, ça paraît prof, mais c'est des milliers de kilomètres à chaque fois. Serge Sodi, vous, notre agent de renseignement au Brésil, je plaisante, je dis ça parce que je sais que vous avez des amis là-bas. Vous avez une petite anecdote à nous raconter?
Oui, c'est un ami à moi, qui a d'ailleurs vécu à Toulouse et qui habite au Brésil actuellement, près de São Paulo. Et quand il a appris que l'Orchestre du Capitole venait, évidemment, il s'est précipité une dizaine de jours avant pour réserver des places. Il n'a pas pu en avoir. C'était archi-comble pour les deux concerts que l'orchestre donnait à São Paulo. Donc, il est désolé, il n'a pas pu assister à aucun des deux concerts que l'orchestre donnait à São Paulo.
Salle de 1500 places, la salle-là à São Paulo.
Oui, salle à São Paulo, qui est une salle magnifique, une salle à l'acoustique excellente, qui est une ancienne gare. Ça rappelle tout à fait la gare d'Orsay, qui est devenue musée. Et bien là, la gare, la salle des pas perdus, la grande salle, est devenue salle de concert, une salle magnifique avec plus de 2000 places donc, et une acoustique excellente.
Voilà, donc reprise des concerts de l'Orchestre National du Capitole à Allograin le 18 novembre, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Et c'est donc dans l'attente de ce prochain retour de l'Orchestre du Capitole à Toulouse que nous allons refermer cette première partie d'émission. Dans quelques instants, nous reprendrons notre discussion avec Joël Subiette pour revenir avec lui sur 20 ans d'histoire des éléments avant la semaine d'événements qui célèbre cet anniversaire du 8 au 13 novembre. On se retrouve d'ici une minute. Restez bien avec nous. À tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31 et La Voix du Midi, Robert Pénavert, également cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31, Les Journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, Hubert Stocklin, contributeur du site ClassicNews.com et chroniqueur pour Culture 31, et donc Joël Subiette, fondateur et directeur du chœur Les Éléments.
Mélomanie, l'agenda.
Et dans l'agenda musical de la semaine à venir, nous avons tous noté depuis quelques temps déjà les concerts et événements qui vont rythmer à Toulouse et autour la période marquant le 20e anniversaire de la création du chœur Les Éléments. Les célébrations commencent le mercredi 8 novembre et se terminent le lundi 13 avec un grand concert final à Audi-Sud. Le fondateur et directeur des Éléments, Joël Subiette, nous fait l'honneur et l'amitié d'être notre invité aujourd'hui à Mélomanie. Avant de regarder dans le détail le menu de cette semaine spéciale 20e anniversaire, et quand je dis menu, ce n'est pas un abus de langage, parce qu'on y trouve aussi bien les nourritures de l'esprit que les nourritures terrestres. Je voudrais qu'on feuillette avec vous l'album souvenir de ces 20 ans d'existence. Un album rempli de concerts, de festivals, d'enregistrements, de tournées à l'étranger, de collaborations prestigieuses avec des orchestres et des compositeurs. Sans oublier bien sûr une victoire de la musique classique en 2006. Quand le chœur devient professionnel en 1997, vous n'imaginez peut-être pas, je l'ai subi, un tel parcours. Mais quels étaient vos espoirs et vos ambitions à l'époque pour Les Éléments?
En fait, j'avoue qu'au départ, c'était juste un plaisir personnel. J'étais moi-même chanteur à l'époque. Je faisais de la direction depuis quelques années. Et puis je me suis dit...
Avec Philippe Hervègue.
Oui, tout à fait. Et puis il fallait un moment choisir quelle direction prendre. On ne peut pas tout faire. Donc c'est vrai que j'avais eu la chance d'être assistant aussi de Philippe Hervègue pendant 8 ans, de prendre goût à la direction. Et je dirigeais depuis quelques années des chanteurs amateurs... Et donc, je me suis dit, ça, c'est un pari intéressant. On se lance. J'imaginais pas trop quelle serait l'histoire. C'était au départ l'envie de me frotter à un répertoire que je connaissais, mais que j'avais envie d'approfondir avec des professionnels, en fait.
Ce répertoire, c'était le répertoire a cappella dans ses très grandes largeurs.
Notamment, voilà, pour moi, c'est l'essence même du chœur. Je compare souvent le répertoire a cappella au plaisir que peut avoir un musicien d'orchestre à revenir au quatuor à cordes, par exemple, pour les cordes. Je crois que c'est la même exigence. C'est le son nu, entre guillemets, ou pur, on pourrait dire, du chœur. Mais évidemment, il y en a plein d'autres.
Et quand on parle de répertoire a cappella dans ses grandes largeurs, ça allait vraiment de la Renaissance, voire un peu avant, jusqu'au XXe siècle, même au contemporain.
Voilà, de la Renaissance à aujourd'hui. Alors, il y a quelques... trou, on peut dire, dans l'histoire de la musique comme ça, où il y a beaucoup moins de répertoires a cappella, c'est l'époque baroque et l'époque classique. L'époque baroque parce qu'arrive la basse continue, bon, et les orchestres évidemment, mais même la basse continue qui est souvent là, donc il y a très peu de répertoires a cappella, il y en a un peu, il y en a encore moins à l'époque classique. Parce que là, je parle pas de Mozart, Haydn, mais même en France, hein, on a des petites formations orchestrales. Et puis, tout revient au 19e siècle. Beaucoup en Allemagne, hein, avec Brahms qui était lui-même chef de chœur et qui dirigeait Palestrina avec son chœur, par exemple, la musique de la Renaissance. Et donc là, il y a un renouveau énorme, et puis bien sûr au XXe siècle. C'est quelques siècles de musique, en effet. Avant la Renaissance, je ne m'y aventure pas trop, c'était juste anecdotique pour un ou deux programmes de mettre une courte pièce du Moyen-Âge, mais ça demande vraiment des qualités et des connaissances que je n'ai pas.
Toujours est-il que, dès le départ, il n'y avait pas de spécialisation sur une période ou un genre particulier?
Non, c'était l'envie, en fait, de construire un instrument avec ce chœur qui pourrait aussi bien interpréter la musique de la Renaissance, mais évidemment, avec toutes les recherches musicologiques qui ont pu être faites depuis des années sur les tempéraments inégaux, le mésotonique, etc. Et donc, je voulais un chœur qui soit capable aussi bien de s'adapter au son de la Renaissance que de la création d'aujourd'hui, ce qui n'est pas si loin d'ailleurs. Alors qu'il y a un plus grand monde avec le son romantique, par exemple.
Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu beaucoup de collaborations prestigieuses. On va parler d'abord des orchestres avec lesquels vous avez collaboré. Quel était le premier d'entre eux? Je crois savoir que ce sont les Talents Lyriques de Christophe Rousset.
Oui, tout à fait. En fait, Christophe est un ami et complice depuis des années.
Vous êtes connu chez Christie, je crois.
Oui, on a fait la Tisse de Lully en 86, moi dans les chœurs, lui dans l'orchestre. Et donc, moi, c'était mes débuts, en fait, avec les Arts Florissants, avec William Christie. Et donc là, on est devenus amis. Et puis après, il a créé son ensemble. Et quand j'ai créé Les Éléments, il m'a dit, je cherche un chœur des fois pour des productions. Et en effet, on a fait plusieurs productions avec lui. On le retrouve d'ailleurs en janvier prochain. Donc, c'est une histoire qui continue.
Autre collaboration qui a compté, c'est Emmanuel Krivine.
Alors, oui, Emmanuel Krivine, c'est une grande rencontre parce que, bon, évidemment, c'est un très grand chef français. Et puis, il a fait un travail tout à fait intéressant avec son ensemble de la Chambre Philharmonique, puisqu'il a fait comme d'autres l'ont fait, comme Hervègue avec l'Orchestre des Champs-Élysées, par exemple. Lui qui avait dirigé des formations comme l'Orchestre de Lyon, ou maintenant le National, a fait un orchestre avec des instruments d'époque, du 19e notamment. Donc, évidemment, il cherchait peut-être un chœur aguerri à certaines esthétiques, entre guillemets, qui venait des esthétiques de l'époque classique, la transition vers le romantisme. Et ça a été une très belle rencontre et une très belle complicité. D'ailleurs, il nous demande régulièrement. Et la dernière fois, c'était l'an dernier à la Philharmonie de Paris. On a fait un très beau Requiem de Brahms avec lui. J'en garde un merveilleux souvenir.
L'opéra, ça a commencé avec qui et à quelle époque?
Alors l'opéra, ça a commencé en 2007 à l'Opéra Comique. Vous savez comme moi qu'à l'Opéra Comique à Paris, il n'y a pas de chœur attitré comme à l'Opéra de Paris. Donc il y a quelques chœurs invités, notamment régulièrement le chœur Accentus de Laurence Equilbé, le nôtre. Quand les Arts Florissants viennent, ils amènent leur chœur, évidemment, pour le répertoire baroque. Et donc on a eu beaucoup de collaborations avec l'Opéra Comique. C'était en 2007 avec Jérémy Rohrer, c'était Fra Diavolo de Aubert. Mais on est revenu après, avec Rivine notamment, on a fait Béatrice et Bénédicte, de Berlioz. On a fait plusieurs opéras, Manfred de Schumann. Et là, on fait le Comte Henri de Rossini. Là, c'est avec Louis Langrée, l'Orchestre Champs-Élysées et une mise en scène de Denis Podalydès.
Et puis, bien sûr, dans les collaborations prestigieuses, il y a eu l'Orchestre National du Capitole, époque Michel Plasson. Il y a eu plusieurs.
Et après,
alors, époque Michel Plasson, c'était... À quel moment pour vous?
C'était alors les années 2002, 2003, 2004... on a enregistré le Carmen de Bizet en 2003. Un grand souvenir, ça.
Mais même pour l'amateur de disques, d'entendre enfin le chœur de Carmen délicat, la fumée des cigarières, c'était quelque chose d'aérien. Par rapport à ces grands chœurs d'opéra, je ne veux pas cracher dans la soupe, mais quand c'est la Scala ou les Anglais, ou le maître qui chante Carmen, c'est le gros bastring, quoi. Alors que là, il y a une vraie finesse. Et ça a été remarqué. Hein. Ça a été remarqué dans les critiques, c'était excellent. Et on a quelques amis comme ça à avoir été complètement bluffés par ces chœurs de Carmen. Tu sais, si on n'écoute pas Carmen pour les chœurs, au départ. Mais là,
il y en a beaucoup pourtant.
Mais là, oui. C'était une découverte.
Oui, c'était vraiment une démarche intéressante de la part de Michel Plasson. Il ne faut pas oublier qu'Carmen a été créée à l'Opéra Comique. C'est une toute petite scène. Hein. Donc le chœur n'était pas très nombreux.
Une fausse tradition de chœur lourd qui ne convient pas à Carmen.
Et justement, je crois que c'est pour ça qu'il nous avait demandé à l'époque, parce qu'on avait déjà travaillé au concert avec lui. Et il avait dit, j'ai envie d'un chœur jeune, frais. J'ai envie que les cigarières aient 20 ans quand elles sortent de la manufacture. Donc il a fait tout ce travail de clarté, même au-delà de ce que j'avais pu préparer avec le chœur. J'étais vraiment très surpris jusqu'où il a osé aller. Ouais. Presque des fois des sons tout d'un coup où il demandait pas de vibrato,
un peu blanc,
donc il a osé. Et ce qui était fantastique, cet enregistrement de Carmen, c'était que lui qui l'avait dirigé tant de fois, tout d'un coup il a eu le grain pendant 10 jours ou 12 jours, je ne sais plus, peut-être même 15, enfin, c'était une très longue période. Et donc évidemment ça coûtait beaucoup d'argent aussi, hein, mais je pense qu'il voulait,
faire
un travail de fond sur cet opéra qu'il avait déjà dirigé 300 fois à l'époque, je crois, et faire un vrai travail, et ça a été passionnant.
Il y a eu un enregistrement aussi avec Nathalie Dessay et le Capitole.
Oui, un disque d'air d'opéra de Nathalie Dessay, c'était des airs d'opéra français. Et donc, c'était juste après le Carmen, et du coup, on a fait ça aussi. Okay. Et on a fait un autre disque, un double disque, chez Amy aussi, qui était les cantates de Berlioz, les œuvres qu'on n'entend pas très souvent. Donc, les cantates avec orchestre, tous les petits chœurs même avec orchestre, certains qui durent 7 minutes, comme Sarah Labaigneuse sur le poème de Victor Hugo, des choses comme ça, des petits bijoux. Et on a fait ça avec Plasson, c'était le toute fin de Plasson à l'orchestre.
Et puis alors, il y a aussi une collaboration qui compte beaucoup, et c'est celle avec les Passions de Montauban.
Oui.
D'abord parce qu'il y a une longue amitié qui vous unit à Jean-Marc Andrieux depuis l'époque du chœur d'Alex Bourbon.
Oui, quand on était étudiant, moi quand je suis arrivé à l'ensemble d'Alex Bourbon, j'avais 18 ans, j'étais tout jeune étudiant. Et Jean-Marc y était déjà, et il était énorme aussi. On s'est retrouvés dans le même pupitre. Donc pendant des années, on a chanté à côté. On était dans le grand chœur d'Alix Bourbon et aussi dans le petit chœur, on était 16. Donc évidemment, il s'est formé une amitié. Jean-Marc a fondé son ensemble, d'ailleurs...
À peu près en même temps que...
Un peu plus tôt.
À peine, je crois.
Mais lui, ils ont fêté leurs 30 ans.
Mais quand vous créez les éléments, vous, la première version du chœur...
Oui, la première version,
86,
c'était presque en même temps.
C'est à peu près en même temps que les Passions.
Et d'ailleurs, j'ai chanté dans le premier concert des messes brèves de Bach qu'il avait donné à l'époque. Et je faisais les solos.
Il m'avait raconté ça.
Et le chœur. Et donc, on se connaît très bien. Et puis, voilà, il m'a prêté l'orchestre plusieurs fois. Et je lui ai prêté, si on peut dire ces mots-là, le chœur plusieurs fois. Donc, lui, il a enregistré plusieurs disques. Il y a les trois disques Jean-Gilles, le disque Blanchard. Il y a même d'autres projets, je crois. Donc, il y a une belle collaboration. Et moi, avec eux, j'ai fait plusieurs fois Bach. J'ai fait le Dixit de Menus de Handel. J'ai fait du Vivaldi. J'ai même fait une fois le Requiem de Mozart il y a très longtemps et on le refera d'ailleurs probablement.
Alors je veux qu'on fasse un petit arrêt sur cette collaboration entre les Passions Montauban et les éléments avec nos chroniqueurs parce que vous avez suivi ça de près à l'époque. Qu'est-ce que vous en gardez de ce CD, les Lamentations de Gilles
et le Requiem des... C'est les Lamentations. Ouais. J'adore les trois CD de Jean-Gilles, mais peut-être c'est la découverte la plus fabuleuse, c'est les Lamentations et un chœur de chambre, là vraiment chambre, avec un travail d'une délicatesse extrême et d'une grande émotion du fait de la pureté des voix et du style. Moi, c'est effectivement les Lamentations. J'ai amené quelques disques qui sont mes préférés et les Lamentations de Gilles. C'est mon préféré du trio de Gilles.
Je suis tout à fait d'accord.
Oh mince, on ne va même pas se disputer.
Oui, on ne peut pas se disputer. Non, c'est tout à fait magnifique. Oui. Puis avec une recherche du style français. Hein, ça ne sonne pas comme du Monteverdi ou du... Non, c'est vraiment très spécifique et donc c'est magnifique. C'est un répertoire qui mérite d'être joué et rejoué.
On a parlé des collaborations avec des orchestres, on va parler des collaborations avec des compositeurs, ce qu'il y en a eu beaucoup. Et c'est arrivé assez rapidement après la création du chœur.
Un an après.
Voilà. Le premier, ça a été... Patrick Burgan.
Tout à fait, parce qu'on se connaissait. Et puis, dès que j'ai voulu passer une commande, j'avais déjà fait une pièce de lui, plutôt avec des amateurs en 94. C'était pour l'ouverture du festival Toulouse des Orgues, d'ailleurs. La première fois qu'il a écrit pour nous, une très belle pièce, Audit Chelum, pour chœur, orgue et trois solistes, deux sopranes, un ténor.
Et depuis, il y en a eu d'autres avec lui.
Oui, il y a eu... Après, quand on a fait notre disque Shakespeare, il nous a offert un sonnet de Shakespeare qu'il a mis en musique, 140 Winters. En 2006, on lui a commandé Nativité, une pièce pour 24 voix solistes. Enfin, pour chœur à 6 voix pouvant se diviser jusqu'à 24 voix solistes, en 6 langues différentes. Et puis cette année, je lui ai commandé une pièce pour chœur et viol de gambe, pour notre programme Capella Nostra. Et il a écrit une pièce sur des profondis en occitan, en latin, et puis un texte de... Mince, j'oublie la poétesse albigeoise, Louise Apollin.
Merci, parce que je n'aurais pas pu vous aider, heureusement que vous êtes rappelé. Eh bien, je propose qu'on écoute justement une des œuvres de Patrick Burgan que vous avez créée. Vous l'avez cité, c'est Nativité. Pour 24 voix, on écoute tout de suite un extrait.
Thank you.
extrait de Nativité pour 24 voix de Patrick Burgan, interprétation des éléments. Alors là, tous les pupitres chantaient dans une langue différente, Joël, hein, c'est ça?
Oui, il y a 6 langues. Les sopranos chantent en italien, les mezzos en français, les mezzos en espagnol, les altos en latin, les ténors en anglais, bien entendu, les barytons en français et les basses en allemand. Voilà. Ce qui donne en fait une pièce où toutes les langues se mélangent et quasi symphonique, puisqu'on ne comprend plus le texte.
C'est la tour de Babel. Je me demandais comment on travaille avec un compositeur à qui on commande, parce que ce sont des commandes à chaque fois, c'est vous qui commandez une œuvre, avec un compositeur comme Patrick Burgan qui a collaboré avec vous à plusieurs reprises. Avec le temps, je pense qu'il doit tenir compte de la couleur vocale du chœur, de chaque voix, même individuellement parlant.
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien travailler plusieurs fois avec un compositeur, parce que au fur et à mesure que les œuvres arrivent, elles tiennent vraiment compte de la couleur du chœur, ou alors certains ont même voulu nous amener dans des terres autres, hein. Mais souvent aussi des individualités pour les solistes. Il y a des compositeurs qui m'ont dit, tiens, est-ce que Sophie, est-ce que Cécile sera là? Ah oui, parce que je pense à un solo pour elle, par exemple, parce qu'ils connaissent exactement le grain de chaque voix. Et après, évidemment, ça veut dire aussi qu'il y a une complicité musicale qui naît, et c'est très agréable de retravailler plusieurs fois avec un même compositeur.
Alors si on parle des autres compositeurs qui ont composé pour les éléments, il y en a combien? Il y a une dizaine, je pense.
Ah oui, il y a Philippe Hersant, il y a Tantatiette, il y a Vincent Paulet, il y a Zad Moultaka, il y a Alexandros Marqueas, Antonio Chagas-Rosa, Ivan Solano...
Thierry Pécou.
Thierry Pécou, bientôt Mantovani, dans 2 ans.
Philippe Hurel, je
Philippe
crois,
Hurel,
à venir.
Philippe Hurel, en 2020 aussi, il y a une commande à Philippe Hurel. Enfin voilà, oui, il y en a beaucoup. Oui.
Alors Zad Moultaka, il faut qu'on en parle, je crois que c'est celui qui a le plus composé pour le chœur. 11 fois, 11 œuvres pour vous?
Oui, 11 œuvres allant de pièces courtes à une pièce la plus longue, fait 1 heure quand même, donc c'est pas mal de temps de musique. Oui,
Alors c'est un lien vraiment particulier, Moultaka, avec les éléments.
Oui, on s'est rencontrés en 2004, donc moi c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup la musique, et ce qui a été passionnant pour nous, je trouve, donc il est Libanais, il a une culture occidentale tout à fait assimilée, comme tous les Libanais bien entendu, extrêmement cultivée, mais il a aussi une culture orientale, et qui pour nous n'est pas de l'orientalisme, c'est vraiment sa vraie culture, et je trouve que c'est très intéressant aussi... avec les compositeurs d'aujourd'hui, de rencontrer des langages différents suivant les compositeurs, mais aussi des cultures différentes. Et ça, c'est quelque chose qui a été fascinant. Et on est allé d'ailleurs 2 fois au Liban pour chanter sa musique. Donc à ce niveau-là, ça reste une belle rencontre. Et puis c'est quelqu'un aussi qui, pour moi, sait jouer avec les voix. Lui, justement, il a tenu compte de notre couleur, mais aussi, des fois, il nous a fait prendre des voix gutturales, il nous a fait écouter des polyphonies anciennes syriaques, en disant, voilà, je me suis inspiré de ça. Évidemment, on ne peut pas chanter pareil, mais pour qu'on comprenne l'essence du son, et voilà, c'est... Puis en plus, c'est une personne avec qui une amitié s'est créée, pas seulement avec moi, avec les chanteurs aussi.
Vous parliez de ces concerts au Liban, mais vous avez fait des tournées dans plusieurs pays. Il y en a quelques-unes qui vous ont marqué plus que les autres?
Oui, une qui était très intéressante en 2004. On a fait une semaine de résidence au Festival de musique de Vancouver, au Festival d'été. Et là, on a fait nos concerts, mais on a travaillé aussi avec un ensemble de musique ancienne canadien. Ça, c'était vraiment intéressant. Au Liban, évidemment, parce qu'on a fait des résidences là-bas. On est resté 10 jours pour créer un programme à un moment. On a chanté au Festival de Baalbek devant ce temple de Bacchus, qui est une des plus belles merveilles qui reste
des temples romains.
Et voilà, et puis on chantait sur les marches. Bon, là, on était sonorisés parce qu'il y avait 2000 personnes sur des gradins, c'était en plein air. Et puis la musique était faite pour ça aussi. Mais moi, j'avoue que c'est le plus beau décor que j'aurais sûrement jamais toute ma vie pour diriger. Avoir ça devant, chargé d'histoire. Et aussi, une autre aventure avec Moultaka, particulièrement touchante. On était à Atlanta, ville jumelée avec Toulouse, hein, comme vous savez. Donc, je suis allé 2 fois. Et là, on était avec les éléments et on chantait au Morehouse College, qui est la première université afro-américaine. Et Moultaka avait écrit une pièce sur le texte de Martin Luther King qui défile. Et nous, dessous, on chante des textes des sinistrés de l'ouragan Katrina en 2004. Et on a donné ça devant les étudiants de Morehouse College, où Martin Luther King avait été étudiant. Et là, après, à la fin de la pièce, je sais pas, il y a eu 30 secondes de silence. C'est très long, 30 secondes. Pour nous, ça semblait une éternité. Personne ne disait rien.
Et vous ne saviez pas si ça avait plu ou au contraire des plus.
Ah oui, c'était terrible. Et puis après, il y a eu... Vraiment, les étudiants venaient nous parler. Enfin, c'était une rencontre très émouvante d'aller faire cette musique dans l'université de Martin Luther King.
Il faut qu'on écoute quand même la musique de Moultaka, chantée par les éléments, il y a quelques années. Alors c'est peut-être l'œuvre dont vous parlez la plus longue. Est-ce que c'est La Passion selon Marie, la plus longue?
Ah oui, oui, elle fait une heure celle-là, oui.
Voilà, La Passion selon Marie qui avait été créée, si je me rappelle bien, à la cathédrale Saint-Étienne.
Oui, en 2011.
2011, avec Les Passions, l'orchestre
c'était, non, c'était Concerto Suave.
Ah, c'est Concerto Suave.
Voilà, l'ensemble de Jean-Marc Haïm.
Voilà, on va écouter un extrait de cette œuvre. Vous allez voir, c'est très prenant aussi, c'est très particulier. Écoutez. Donc de La Passion selon Marie de Zan Moultaka, interprétation par Les Éléments et le Concerto Soave. Alors on sent bien cette ambiance vraiment très particulière, mystique. On sent que c'est un oriental qui a composé cette œuvre. Alors mes camarades ici, bout d'impatience et envie de vous poser mille et une questions, Joël Subiette. Il y en a un là qui attend depuis un petit moment, c'est Robert Pénavert. Je vais lui donner tout de suite la parole. Alors qu'est-ce que vous vouliez savoir que vous ne sauriez déjà sur Les Éléments?
Joël Subiette, voilà, nous vous connaissons évidemment comme chef de chœur, mais nous vous connaissons également comme chef d'opéra. Vous dirigez Mozart en particulier, vous dirigez Offenbach. Alors, est-ce que vous aimeriez diriger davantage d'opéra? Et si on faisait des propositions, vers quel compositeur aimeriez-vous vous diriger?
Alors, j'avoue que je me retrouve très bien dans Mozart, évidemment, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le faire. J'ai fait Don Giovanni, j'ai fait la flûte, j'ai fait les noces, beaucoup, les noces de Figaro, Rêvement au sérail. Donc ça me passionne parce que c'est un autre univers vocal et puis que j'aime l'orchestre aussi. Et ce que je trouve extraordinaire dans la musique de Mozart, c'est que l'orchestre est au service du texte. Quand on voit qu'à tel endroit c'est deux clarinettes et là deux au bois, notamment dans les longs ensembles, qui sont par exemple dans les noces, les finales, mais rien n'est gratuit. C'est extraordinaire, quoi. Donc ça me plaît beaucoup. Je me sens moins... Je parle en tant que chef, parce que j'adore l'opéra du 19e, mais peut-être que je me sentirais moins à l'aise de diriger ce répertoire-là. Évidemment, dans l'opéra baroque, comme j'ai fait beaucoup de musique baroque, il y a des choses que j'aimerais faire, notamment, j'adore Purcell. On sait que toutes ces pièces ne sont pas des vrais opéras, notamment King Arthur, c'est pas un opéra, Didon est né, c'est si court, mais il y en a d'autres, là, il y a la Reine indienne, et ça, c'est vraiment une musique qui me parle beaucoup. Donc ça, j'aimerais, dans l'opéra baroque. Et après, il y a des opéras que j'aime beaucoup au XXe siècle, notamment dans des petites formes, les opéras de Britten, par exemple, que je trouve qu'on n'entend pas assez, on les entend en France, hein, mais ils sont pas encore rentrés vraiment...
au programme de répertoire.
Ouais, dans le répertoire, on va dire. Heureusement, ça se fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. Et puis aussi, je me dis que de la même manière qu'on fait un travail justement sur le répertoire de chœur par des compositeurs, j'adorerais être au service de compositeurs qui aient envie de faire des opéras ou des opéras de chambre ou des opéras plus gros, en se disant que finalement, il y a aussi peut-être une parole à donner, et ça se fait régulièrement, mais pas assez peut-être. Et donc là, en tant que chef, je me dis, oui, j'aimerais bien aller dans ce type d'aventure, par exemple, à l'opéra.
Lorsque un chanteur, une chanteuse souhaite intégrer votre ensemble, quelles sont les qualités premières que vous lui demandez ?
Alors évidemment, la première chose que j'écoute chez un chanteur, au départ, c'est sa voix, la couleur. Mais finalement, ce n'est pas les qualités vocales qui vont gagner, c'est un tout. En audition, je demande souvent au moins 3 pièces. Je demande une pièce en allemand obligatoire aussi, parce que c'est tellement particulier l'allemand que je veux être sûr qu'on fait beaucoup de répertoire allemand, que la personne le prononce bien ou fait un mot que c'est perfectible, entre guillemets. Donc en fait, ce que j'écoute le premier, c'est la musicalité. Évidemment, si la voix ne me plaît pas, c'est bon, d'avance, ça ne plaît pas. Mais je vais écouter la musicalité, je vais écouter la possibilité de s'adapter au style, la possibilité de vibrer, de non vibrer, d'utiliser des couleurs de tête, des couleurs de poitrine, et aussi l'intelligence. Et déjà, par exemple, un chanteur, quand il va choisir ses morceaux d'audition, on voit l'intelligence du chanteur. Il va choisir 3 musiques différentes, 3 répertoires différents. Qu'est-ce que je peux montrer de mieux, de moi, dans le lead, dans l'opéra, dans un air d'oratorio? Donc, en fait, oui, c'est l'intelligence, mais je crois que c'est pas propre à la musique, finalement. C'est ce qu'on demande le plus à quelqu'un. Après, le reste, c'est de la technique. Il s'agit de l'avoir, ou si on est professionnel, on doit avoir une bonne technique. Puis le timbre, ça, c'est autre chose. C'est comme le physique. On a un nez comme ça ou des oreilles comme ça. On ne choisit pas. Et donc ça, après, c'est très aléatoire, mais ce n'est pas le principal.
Quand on parle de chant choral amateur en particulier, on parle beaucoup de la tradition britannique, anglo-saxonne en gros. Où en est cette tradition en France? Est-ce que c'est une pratique qui évolue beaucoup ou alors ce n'est pas le cas?
Moi, je crois qu'elle a beaucoup bougé dans les 50 dernières années de manière différente. Il y a eu des grands mouvements d'éducation populaire, comme à Cœur Joie, par exemple, après la guerre, et qui ont fait un travail énorme. On parlait tout à l'heure d'Alix Bourbon, mais voilà, il y a dans les années 70, 80, qui ont hissé le niveau de la pratique amateur, vraiment dans des sommets. Et puis, il y a de plus en plus, finalement, à partir des années 80, de petits chœurs de chambre qui sont formés dans d'ensembles vocaux. Donc, en France, c'est en train d'évoluer. Évidemment, il y a aussi tout ce côté du développement des maîtrises. On le voit aussi avec Marc Hofstadt. Hein. Et on forme toute une génération de musiciens. Ils ne deviendront pas tous professionnels. Mais j'imagine que bon nombre d'entre eux iront chanter dans des chœurs amateurs quand ils seront adultes. Ça veut dire que c'est vivant. C'est vivant. Ça va continuer. Il y a un très beau répertoire. Le répertoire avance. Je suis très optimiste pour ça. Et puis je trouve que c'est important, la pratique amateur. Des amateurs, que ça soit en théâtre, que ça soit en musique, que ça soit en sport, ça prouve qu'un pays est vivant, ça prouve que les gens ont autre chose que leur travail, qu'ils ont des passions. Et puis c'est eux qui viennent au concert aussi.
Voilà. Ça forme un terreau.
Oui.
Un terreau à partir duquel on peut avoir des choix.
C'est très noble. C'est amateur, c'est aimé. Je trouve que c'est important. C'est important.
Les événements vocaux à Alix Bourbon, chaque fois qu'il y en a un, vous y participez.
Oui, bien sûr. Avec Archipel.
Avec Archipel. Ouais. Vous avez aussi. Toute votre énergie ne va pas que vers les professionnels.
Non, de temps en temps, avec Archipel, évidemment, c'est peu de mon temps.
Vous arrivez à garder dans votre emploi du temps pour les amateurs.
Oui, notamment ceux qui arrivent, les étudiants, par exemple, qui sont en musicaux, des choses comme ça. Il y a une soif, il y a une envie. Je trouve que c'est important que ça existe.
Mais c'est important que des personnes comme vous gardent du temps pour les amateurs.
Oui, je crois qu'il faut, mais je ne suis pas le seul à le faire. Il y a beaucoup de chefs professionnels à garder un moment pour s'investir là-dessus.
De garder du respect pour les amateurs.
Alors, puisqu'on parle de temps, il faut qu'on en garde un peu pour parler de la semaine de célébration spéciale 20 ans des éléments à Toulouse, à Blagnac et même à Colomiers. Alors, ça commence le 8 novembre. L'ouverture, c'est quoi ?
L'ouverture, justement, c'est avec l'atelier vocal, parce que c'est aussi, c'est très symbolique, c'est mes débuts avec l'ensemble, c'est au départ, j'ai dirigé des copains du conservatoire, on était tous amateurs, et donc là, avec l'atelier Archipel, on fait une pièce de Guillaume de Chassy, qui est un pianiste de jazz, qui a écrit cette cantate pour nous, il y a une douzaine d'années, et là, j'ai voulu la reprendre, parce que c'est une œuvre très intéressante, le piano est solo, le chœur ne chante pas du tout comme du jazz. C'est le pianiste qui fait du jazz et nous, il y a une partition écrite et composée par lui. Voilà, c'est une cantate. C'est aussi une rencontre, c'est de la musique d'aujourd'hui.
Et ça se passe où ?
À la Chapelle des Carmélites. Alors, la suite, ça sera le surlendemain. On sera au TNT à 13h, parce qu'on a voulu un peu que tout soit associé à des heures. Et il se trouve que je suis gourmand, j'aime faire la cuisine, et on s'est dit, se fêter nos 20 ans, c'est comme se faire une gourmandise. Donc voilà, ça sera lunch au TNT, ça veut dire que les gens peuvent arriver une demi-heure avant, et qu'il y a des tartines, et qu'ils peuvent...
On peut se restaurer, je disais, les nourritures de l'esprit, les nourritures terrestres.
Voilà, et donc là, au TNT, j'ai choisi de faire de la musique en rapport avec le théâtre, donc avec Shakespeare, et avec Euripide, pas des moindres auteurs quand même. Donc Shakespeare mis en musique par Vaughan Williams et Frank Martin, et Euripide, c'est une pièce d'Alexandros Markeas pour 24 voix solistes sur le Médée d'Euripide qu'on a donné plusieurs fois, mais j'ai très envie de la redonner. Ça, on est le vendredi. Vendredi soir, on sera à Colomiers, au restaurant L'Amphitryon.
Voilà pourquoi je parlais de Colomiers.
Voilà. Magnifique restaurant.
Et là, on est avec un tout petit noyau de chanteurs, une petite dizaine de chanteurs. Et là, on fait de la musique romantique, notamment de certaines pièces qu'on avait données dans notre programme à Ben Lead. L'idée est d'avoir une musique de salon. Donc, on ne chante pas pendant que les gens mangent. Hein,
on mélange pas les plaisirs.
On donne chaque plaisir son moment. On va chanter en ouverture pendant au moment de l'apéritif là donc petit concert de musique romantique, puis on fera entre la poire et le fromage, mais on fera à nouveau une petite pièce, quoi. Voilà, donc un petit moment intime, évidemment. Là, on va dire que c'est deux chefs, un en cuisine et un dans la salle.
Yann Delpech d'à côté, Joël Suviette de
l'autre. Voilà. Le lendemain...
Le samedi,
il y a trois moments. On se retrouve au marché des Carmes. Donc là, je ne dis pas ce qu'on fait, mais on va faire trois pièces. Et il y aura Les Éléments et il y aura Archipel qui va nous rejoindre à un moment. Donc si on met les deux ensemble, on est 24 aux Éléments, là. Et Archipel, ils peuvent être une bonne trentaine ou plus.
Vous allez déambuler autour du marché des
Carmes? Non, on va choisir un endroit, on va se mettre au marché. Et puis on va pousser la chansonnette, comme on peut dire, comme ça. Avec un petit moment. Ça ne durera pas très longtemps, hein, on ne va pas perturber le marché. Mais voilà, on s'est dit, au centre de la gourmandise, il y a les marchés à Toulouse. Et on a choisi ceux-là, nos bureaux sont juste à côté. Donc voilà, l'après-midi, on sera à Ombre Blanche pour un petit hommage à la poésie. Donc, on a notamment Victor Hugo, Paul Éluard, Guillaume Apollinaire, le Libanais Georges Chéadé, grand poète qui écrivait en langue française d'ailleurs, et puis des poèmes chinois du 8e siècle qui ont été mis en musique.
Ça, c'est à l'heure du thé, je crois.
Oui, ça, c'est à l'heure du thé. Oui. D'ailleurs, on appelait ça thé chantant, voilà. Et donc, des poèmes chinois mis en musique pour nous aussi par Philippe Hersan. Donc, un petit concert de 25 minutes. Et là, c'est autour de la poésie. Et quel meilleur endroit que la librairie Ombre Blanche pour rendre hommage à la poésie. Et d'ailleurs, Serge, vous serez...
Oui, un certain Serge Chosy sera de la partie.
Oui, exactement. Donc, Joël m'a fait l'honneur de me demander de participer à cette présentation. Donc,
pour un petit échange, justement, sur la musique, l'ensemble, sur notre rapport peut-être à la littérature aussi, évidemment, parce qu'on peut pas, quand on chante, on a forcément un rapport avec le texte.
Il y a un texte extraordinaire.
Voilà, j'essaie de faire vite. Le soir, à 18h, à l'Essave, on va faire la sortie de notre vinyle. Qui sera pas prêt d'ailleurs, mais au moins les gens pourront l'entendre, parce qu'il y a un petit problème d'impression, de délai de livraison, malheureusement. Pourquoi un vinyle? Parce qu'en fait, à partir de la bande de L'Air du Dire de Jodlowski, Jodlowski a fait un remix, comme on fait aujourd'hui, électro, etc. Quand on sait aujourd'hui le retour du vinyle, et puis les amoureux de l'électro qui font ça, on a choisi ce format-là. Dimanche, à midi, à nouveau au Carmélite, il y a Archipel qui fait les chants de Nougaro harmonisés pour chœur, ce sera Claire Subiette, donc, qui est mon assistante à Archipel et qui est professeure de chant choral à l'université, qui dirigera ce concert. Donc, une demi-heure, là, ou 35 minutes même de Nougaro, avec des superbes arrangements pour chœur. Et puis, le concert final, en effet, le lundi 13 à...
Au Dissud, où vous êtes en résidence depuis 2001.
Tout à fait.
Très important.
Donc, c'était normal de le faire là. Le concert sera enregistré par France Musique, d'ailleurs. On pourra le réentendre au mois de janvier, je crois. Donc là, j'ai choisi Bach, parce qu'on y revient toujours.
On ne peut pas se passer de Bach.
Donc, on fera une cantate de Bach, une messe brève de Bach, c'est l'ensemble mineur que j'aime beaucoup et que je n'ai jamais faite, et un motet de Bach aussi, comme Yezoukom. Et puis en deuxième partie, une pochette surprise. Là, j'ai choisi en fait trois compositeurs, deux qui ont écrit pour nous et un du 20e, assez symbolique pour moi parce que c'est un grand compositeur, mais qui s'est aussi inspiré du folklore, des choses comme ça. Donc c'était très difficile de choisir dans le répertoire, mais j'ai choisi une demi-heure de pochette surprise à l'issue du concert.
Évidemment, on ne connaîtra pas le contenu de la pochette surprise. surprise. Aujourd'hui, il faudra aller au concert. Merci beaucoup à tous les cinq, Anne-Marie Chouchan, Serge Chosy, Robert Pénavert, Hubert Stocklin et Joël Subiet d'avoir participé à cette émission. C'est un plaisir de l'animer à vos côtés et d'échanger avec vous. Je rappelle que Les Éléments fêtent leurs 20 ans du 8 au 13 novembre avec des concerts et plusieurs événements à Toulouse, Colomiers et Blagnac où est donné le grand concert de clôture à Audi Sud le lundi 13 novembre à 20h30. Tout le détail du programme de ces 6 jours de célébration est consultable sur le site web des Éléments www.les-éléments.fr. Notez également le concert de l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg sous la direction de Youri Temirkanov le vendredi 10 novembre à 20h à la Halle aux Grains. C'est dans le cadre de la saison des grands interprètes. Vous trouverez tout le détail du programme sur le site www.grandsinterprètes.com. Je signale aussi les prochains concerts mensuels de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, Marin Marais et la Viole de Gambe, avec Anne Gorier en soliste à la Viole de Gambe les mercredis 8 et jeudi 9 novembre à l'Escale de Tournefeuille, puis les jeudis 16 et vendredi 17 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines. Tous ces concerts commencent à 20h30 et vous pouvez consulter leur programme sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. La régie technique de cette émission était assurée par Christophe Aubry. Vous pouvez bien sûr réécouter ce numéro en podcast dès aujourd'hui en le téléchargeant sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.